Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Alors, nous en sommes à la troisième partie d'un message que nous avons commencé il y a plusieurs semaines. Et je résumerai un peu les deux premières parties pour ceux et celles qui n'étaient pas avec nous. Mais le titre du message, c'est « Pourquoi les bonnes choses arrivent-ils aux gens qui ne le méritent pas? » Pourquoi les bonnes choses arrivent-ils aux gens qui ne le méritent pas? Romains, chapitre 8, les versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances d'en haut, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce matin, le but de ce message, c'est que vous quittiez ce lieu avec la certitude qu'il n'y a rien dans ce beau monde qui peut vous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ pour chacun de vous. Amen. C'est important. Prions. Père éternel, nous implorons ton aide ce matin. Nous voulons que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse parler à notre esprit, afin que nous recevions cette nourriture, Seigneur, que tu nous réserves pour chacun de nous. Seigneur, il est facile de dire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais est-ce que c'est une réalité, Seigneur, pour chacun de nous ici dans ce lieu ce matin? Est-ce que c'est encore quelque chose d'abstrait? Seigneur, à travers ce message ce matin, que ton esprit puisse parler à toi, à son Église, et qu'il puisse vraiment, Seigneur, faire en sorte que cet amour ne soit pas simplement, ne se limite pas simplement à être un verset appris par cœur, à être un mot qui ressort parmi tant d'autres, mais que cet amour, Seigneur, dont ta parole est remplie, que cet amour puisse être une réalité dans notre vie. Et pour confirmer qu'elle est une réalité, que nous puissions la mettre en pratique jour après jour et mettre en pratique tes deux commandements, celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, glorifie-toi à travers ce message ce matin, que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit adoré, car lui seul en est digne. Et c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons et le peuple de Dieu dit Amen, Amen. Alors, dans les deux premières parties de ce message, nous avons vu que s'il arrive des bonnes choses aux gens qui ne le méritent pas, c'est parce que Dieu est un Dieu gracieux. Dieu est un Dieu gracieux. Dieu est un Dieu gracieux, voilà. Nous avons vu le plan de Dieu, le plan que Dieu avait pour nous et la promesse incroyable qui nous est faite. Nous avons deux vérités que nous avons emprisonnées dans notre cœur à tout jamais, parce qu'elles nous permettront de vivre notre vie chrétienne d'une manière inébranlable. Et la première vérité que nous avons vue il y a trois semaines, c'est que nous avons été graciés selon le plan éternel de Dieu. Ce qui doit, on doit réagir, on doit réaliser, frères et sœurs, c'est que Dieu ne nous a pas simplement graciés pour le plaisir de nous gracier, c'est que Dieu a un plan pour nous. Et s'il n'y avait pas eu de plan pour nous, probablement qu'il nous aurait peut-être, au moment où on est sauvé, peut-être qu'il nous aurait fait monter dans le ciel, comme il a fait pour Enoch, comme il a fait pour Élie. Mais Dieu a un plan pour vous. C'est que Dieu nous a graciés, Dieu nous a sauvés, mais il a un plan pour chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il nous permet de rester sur la terre, pour qu'on puisse finalement, eh bien, qu'il puisse réaliser son plan éternel. Et ce plan éternel, nous avons vu que dans le verset 28, Paul dit que toute chose contribue, c'est-à-dire concourt, mais contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous avons vu que le mot « aimer » ici, eh bien, il est synonyme, en ayant été voir dans l'Évangile de Jean, que le mot « aimer » ici, c'est bien « toute chose concourt au bien de ceux qui obéissent à la parole de Dieu ». À la parole de Dieu, tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. De ceux qu'il a appelés selon son plan, et ce plan, c'est le suivant, ceux qu'il a connus d'avance. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. Vous dites amen à ça. Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, ce matin, que Dieu vous a sauvés pour faire en sorte que vous deveniez semblables à Jésus-Christ? Si, selon la théologie qu'on vous enseignait depuis que vous êtes chrétien, que vous êtes des pécheurs, que vous êtes faibles, qu'on n'en a rien à cirer avec vous parce que c'est normal que vous tombiez, c'est très difficile de digérer ce verset, le verset 29. Mais il y a un miracle qui se passe quand on rencontre Jésus-Christ. C'est le miracle de la nouvelle naissance. On est né d'un père et d'une mère humaine. La nouvelle naissance confirme qu'on est né d'un père céleste. On est né d'en haut. On est des citoyens célestes. Et ce miracle, qu'est-ce qui se produit? C'est que le même esprit qui habitait Christ quand il est venu sur la terre, habite en chacun de nous. Voilà pourquoi Dieu nous dit que son plan, c'est de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Pas simplement au niveau du péché, mais ressembler à Jésus-Christ en étant capable de bénir ceux qui nous maudissent, en étant capable de prier pour ceux qui nous persécutent, en étant capable, quand on est persécuté, de prononcer les mêmes paroles que Jésus a prononcées sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et frères et sœurs, ce sont des signes extérieurs de la nouvelle naissance. Amen. Lorsque Jésus est mort sur cette croix, il a restauré cette image de Dieu que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden et qui a été défigurée chez les êtres humains et dans la société à cause du péché. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé sans péché dans le jardin d'Éden. Trois personnes sont venues au monde sans péché. Adam, Ève et Jésus. Les deux premiers ont décidé de désobéir. Jésus a marché dans la vérité, a marché selon l'enseignement du Père. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'homme, créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, a perdu cette image et cette ressemblance quand il a péché. Voilà pourquoi les gens sont en crise d'identité. Voilà pourquoi les gens dans ce monde se cherchent. Et ils vont continuer à se chercher à travers la mode, à travers les temps, à travers les idoles, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas rencontré la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'on retrouve cette identité que le premier Adam a perdue et qui fait de nous une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ensuite, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle naissance. Magnifique ce que la parole peut nous apporter. Magnifique ce qu'elle peut nous apporter. C'est à travers la nouvelle naissance que nous commençons à entrer dans le style de vie gratifiant voulu par le Père, qui est marqué par la paix et par la joie. C'est pour mes paroles, Romains chapitre 15, verset 13. Et lorsque Jésus reviendra, nous serons alors en tout point rendus semblables à lui, parce que nous recevrons un corps semblable à lui, un corps glorifié. C'est ce qui nous manque. La paix et la joie, on est censé l'avoir déjà. Si on est né de nouveau, on est censé l'avoir déjà. On ne doit pas attendre d'être enlevé, on ne doit pas attendre que Jésus revienne. On l'a maintenant. C'est le décor qui va changer, parce qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, quand le Seigneur reviendra. Et on recevra un corps glorifié. Mais déjà, quand on est né de nouveau, cette paix, cette joie, on l'a dans notre cœur, on l'a reçu. C'est un héritage de la nouvelle naissance. Amen. Pourquoi de bonnes choses arrivent-elles à des gens qui ne le méritent pas? Premièrement, parce que nous avons vu que Dieu est un Dieu qui est gracieux et qu'il a un plan pour nous, et c'est celui de nous faire ressembler à la personne de Jésus-Christ. Peu importe ce qui survient dans nos vies. La deuxième vérité que nous avons vue dans les semaines passées, nous sommes guidés par la providence de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Comment le plan de Dieu s'accomplit-il dans nos vies? Par la providence qui est le moyen par lequel et au travers duquel Dieu gouverne toutes choses dans l'univers. Et lorsque nous parlons de la providence de Dieu, nous affirmons que Dieu a le plein contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui échappe. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. Lorsque nous traversons des moments difficiles dans la vie, il est facile d'oublier que Dieu est en contrôle de toutes choses. La prochaine fois que quelqu'un tirera le tapis qui se trouve sous vos pieds, rappelez-vous que Dieu est toujours là pour vous rattraper. Car Dieu lui-même a dit, Hébreux chapitre 13, verset 5, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Amen. Oui. Voici maintenant la troisième vérité que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Verset 31. Lisons ensemble verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Il y a deux semaines, j'ai dit que lorsque John Wesley est décédé, lorsque John Wesley est mort, pour moi, c'est un second apôtre Paul, John Wesley, avec tout ce qu'il a souffert. Quand il est mort, les gens ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans l'antichambre du ciel, tellement la gloire de Dieu se manifestait dans cette chambre, où tous les pasteurs de la congrégation de cette famille d'Église étaient réunis. Et John Wesley, malgré les persécutions, malgré s'être fait battre, rejeté, banni par l'Église officielle, a dit avant de mourir, ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est pour nous. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Frères et sœurs, si vous voulez vivre pieusement Jésus-Christ, vous allez être persécutés. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Et l'apôtre Paul en rajoute une couche. C'est une grâce que d'être persécuté pour le nom de Jésus-Christ. Ça n'est pas difficile à digérer, n'est-ce pas? Paul dit que c'est une grâce d'être persécuté pour la cause de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que quand on commence à être persécuté pour la cause de Jésus-Christ, ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et ça, c'est indigérable pour le monde des ténèbres dans lequel on vit. C'est indigérable. Allez dire aux gens à l'extérieur que c'est péché de vivre avec une femme qui n'est pas la nôtre. On va vous traiter de cinglé, hein? Allez dire aux gens que c'est pas normal de tromper sa femme. On va vous dire, mais ça va pas, quoi. Allez dire aux gens que c'est pas normal de faire noir, ils vont vous dire, mais t'es malade, hein? Sortez tout ce qui est contre la parole de Dieu, on va vous traiter de cinglé, hein? Et ça amène la persécution. Parce que c'est le royaume des lumières qui vient affronter le royaume des ténèbres. On n'est pas là pour les juger, hein? On est là simplement pour la partager à quel royaume nous appartenons. Et ça choque. Ça choque. Rappelez-vous de Paul dans le livre des Actes, lorsqu'il a comparu devant Félix et devant Agrippa. Il leur a partagé sa foi. Et il l'écoutait, hein? Il l'écoutait. Si c'était limité simplement que Dieu est amour, ils l'auraient écouté toute la journée, hein? Mais pas à la pratique du moment où il a commencé à parler du péché, du jugement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, on t'écoutera une autre fois, Paul. Et le monde n'est pas prêt à entendre ces choses. Nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes des citoyens du royaume des lumières. Et nous avons besoin, les gens ont besoin d'entendre cette parole que le Seigneur Jésus nous a laissée. Il y a beaucoup de gens qui seront contre vous. Il ne faut pas penser que c'est votre cas ce matin que ce monde va vous respecter si vous servez le Seigneur Jésus. Ce monde vous briserait le cou s'il était capable. Ce monde vous briserait le cou. Mais rappelez-vous ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le mot « pour » ici dans le grec, le mot « pour » dans ce verset fait ressortir l'idée que c'est Dieu qui prend notre place. Il est mort pour vous, il est mort à votre place. C'est important qu'on saisisse ça, cette vérité. Il est mort à notre place. Et cela ne signifie pas seulement que Dieu est pour nous, mais qu'il prend littéralement notre place. Si Dieu est pour nous, si Dieu est notre substitut dans le Seigneur Jésus-Christ, si Dieu a pris notre place, qui peut être contre nous? Vous savez ce qui est extraordinaire, frères et sœurs? Et on a besoin de... J'aime pas le mot visualiser, ça fait nouvel âge, mais on a besoin de voir cette réalité, frères et sœurs. Quand quelqu'un attaque un enfant de Dieu, il s'attaque à Dieu. Il s'attaque à Jésus. Que te sert-il? Que te sert-il? Que dit Jésus à Paul? Que te sert-il de régimber contre les aiguillons? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'a jamais rien fait de mal à Jésus-Christ. Hein? Il allait dans les villes avec un mandat, puis il arrêtait les chrétiens, les enfants, ils enfermaient, ils mettaient en prison. Frères et sœurs, quand quelqu'un s'attaque à un enfant de Dieu né de nouveau, il s'attaque à Dieu lui-même. C'est une vérité que vous devez assimiler. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Frères et sœurs, quand on assimile ces vérités, quand les gens vous parlent, quand les gens vous insultent, quand les gens vous maltraitent, vous gardez cette assurance. Parce que vous dites, tu ne sais pas contre qui tu es en train de jouer, tu es en train de jouer contre Dieu. Tu es en train d'affronter Dieu. Frères et sœurs, quand on annonce l'Évangile, ce n'est pas nous que les gens rejettent. C'est Jésus qui rejette parce que ce n'est pas notre Évangile, c'est l'Évangile de Jésus. Et on est vraiment à l'aise à ce moment-là de proclamer l'Évangile. Amen. Ouais. Satan veut que vous doutiez, il veut que vous vous posiez des questions. Est-ce que vous savez que Satan aime déposer des questions dans votre esprit pour vous amener à douter? Pour vous amener à douter qu'un frère peut vous aimer, qu'une sœur puisse vous aimer, que Dieu puisse vous aimer, que Jésus puisse vous aimer. Dans le jardin d'Éden, il va poser une première question tordue à Ève et cela changera le cours de l'histoire de l'homme. Il dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit Ève? Es-tu sûr que Dieu a dit ça, Ève? » C'est une question qui visait à semer le doute dans le cœur de Ève sur ce que Dieu avait dit. « Es-tu bien sûr, Ève, que c'est ce que Dieu a dit? » J'aimerais poser 5 questions au diable ce matin, touchant la parole de Dieu. 5 questions dont il n'a pas les réponses. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler ici, que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et lorsque vous verrez ces 5 questions auxquelles Satan ne peut pas répondre, vous direz alors, « Merci Seigneur, peu importe ce qui arrive dans ma vie, je sais que tu veilles sur moi. » Et quand il arrivera des épreuves, si vous marchez dans la vérité, vous pourrez même glorifier le nom du Seigneur parce que vous pourrez vous dire en vous-même, « Seigneur, parce que je t'aime, parce que je marche dans la vérité, parce que je me fiche en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, les épreuves ont pour but de m'amener à ressembler davantage à Jésus-Christ. Et non pas toujours à chercher qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et non pas commencer à penser, Dieu, est-ce que Dieu m'aime? Ah, Dieu m'aime peut-être moins qu'un autre. Non. C'est important que ces choses-là, cet enseignement, deviennent une réalité. Le chapitre 8 du livre de Romains est le cœur de l'Épître aux Romains. Si on saisit le 8e chapitre de l'Épître aux Romains, eh bien, il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Notre façon de vivre, notre vie chrétienne ne peut faire autrement que de changer. Amen. Voici la première question que nous retrouvons verset 31 pour ceux qui ont leur Bible ce matin. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prenez note, personne ne peut plus nous intimider parce que Dieu a pris notre place. Jésus est mort pour nous et donc lorsque Satan vient nous intimider, il vient se frotter littéralement à Dieu lui-même. J'apprécie vraiment ce passage en Ésaïe, chapitre 41. Verset pour ceux qui ont leur Bible, ou si vous voulez écouter, vous lirez à la maison, prenez note. Chapitre 41, verset 13-14. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens fermement ta main droite. Je le répète, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours. Écoutez bien maintenant. Ne crains rien, vermisseau d'Israël, vermisseau de Jacob, faible rejet d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. En d'autres mots, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? N'aie pas peur, toi qu'on traite en vermine, toi qu'on écrase comme un ver, Je viens moi-même à ton secours, je prends ta cause en main. Voici un très bon partenariat, frères et sœurs. Dieu et un verre. Chers amis, je vais vous révéler quelque chose. Je préfère être un verre en ayant Dieu de mon côté qu'être un éléphant et de m'appuyer sur mes propres forces. Et ça prend du temps, en tant que chrétien, à perdre de vue qu'on n'est pas des éléphants. Et combien de chrétiens, pendant des années, qui y vont par leur propre force, constamment par leur propre force, qui subissent défaite après défaite. Et Dieu veut leur rappeler qu'il veut faire un partenariat avec un verre. Prenez un gros verre géant. Je ne sais pas quelle longueur on pourrait avoir dans les verres géants. Il n'y a pas de pattes pour courir. Il n'y a pas de main pour tenir un épée. Et il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Et Dieu nous compare à des vers. Pas pour nous humilier, pour nous montrer que sans lui, on ne peut rien faire. Quelle belle image! Ce matin, toi qui es dans la salle, te compares-tu à un éléphant ou à un ver? Si tu te compares à un éléphant, tu es encore en train de lutter par tes propres forces et tu penses d'y arriver. Et tu fais le jeu de l'ennemi de nos âmes parce que c'est ce qu'il veut que tu maintiennes cette image que tu es un éléphant plutôt qu'un minable ver. Mais ce ver, Dieu dit, je suis agrippé après toi. On est partenaire dans la vie dans laquelle tu es appelé. Amen. Amen. C'est une belle image, en tout cas dans Ésaïe. Dieu dit dans ce verset, « N'aie pas peur, j'arrive à ton secours, je prends ta cause en main, je suis avec toi, Dieu est avec vous. » J'aimerais rappeler au diable que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? C'est ça l'idée de Dieu, et c'est ça l'idée ici. Si Dieu a pris ma place, je suis peut-être un ver, mais il est le Tout-Puissant et rien ne lui est impossible. Et dans Marc, on rajoute, « Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. » Est-ce que c'est une vérité dans votre vie, frères et sœurs? La deuxième question que j'aimerais poser au diable se trouve au verset 32. Il est écrit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Frères et sœurs, non seulement le diable ne peut plus m'intimider, mais il ne peut plus me faire douter. Ça, c'est la deuxième réalité qu'on doit saisir. En d'autres mots, si Dieu m'a aimé suffisamment pour donner son propre fils pour me sauver, je ne dois pas mettre en doute aucune de ses promesses. Je veux que vous voyez la logique de Paul, de ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, écoutez, si Dieu nous a montré jusqu'à quel point il nous aime, en n'épargnant même pas son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? En d'autres mots, frères et sœurs, chers amis, si Dieu nous a donné son propre fils alors que nous étions encore pécheurs, imaginez maintenant ce qu'il peut faire pour nous maintenant que nous sommes ses enfants. Imaginez maintenant ce qu'il peut nous donner parce que nous sommes ses enfants. S'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux alors que nous ne lui avions rien demandé, imaginez ce qu'il peut nous donner si nous commençons à lui demander des choses. Dans Jean chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Je ne dirai pas que c'est un péché de ne pas demander. Mais j'ai une conviction dans mon cœur que c'est un manque de foi. Parce que si on était convaincu que ce qu'on demande à Dieu, qu'il le glorifie, Dieu va lui le donner, on n'hésiterait même pas à le demander. Et on ne douterait même pas que Dieu va nous l'accorder. Nous sommes une génération de chrétiens très timides par rapport aux chrétiens de l'Église primitive, qui ont bouleversé leur génération, non pas en blasphémant, non pas en insultant les gens, mais simplement en manifestant le caractère de Jésus-Christ. On a besoin de revenir au message, au cœur du message à l'Évangile, si on veut être en mesure de voir un changement dans cette société qui est en train de couler à pic. J'ai rencontré un vieux monsieur au Carrefour, 76 ans, un gars du monde. Et je ne me souviens pas s'il était sur le Vif, l'Express et tout ça. Il regardait tout ce qui se passait dans le monde. Et je regarde le monsieur, je dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un gars du monde qui m'a répondu. Il dit, monsieur, je suis en train d'assister à la fin d'une civilisation. C'est un gars du monde, hein? Il n'a pas lu les Écritures. Hein? Et c'est ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a qu'une façon de renverser la vapeur, c'est de proclamer l'Évangile. Le péché est devenu normalité dans cette société, frères et sœurs. C'est nous qui ne sommes pas normales. Les gens ont besoin d'entendre la vérité. Oui, vous allez en choquer. Oui, il y en a qui vont vous insulter, comme ils ont fait pour Jésus, comme ils ont fait pour Paul, comme ils ont fait pour tous les serviteurs qui ont pu se tenir debout. Mais c'est une grâce d'être insulté, persécuté pour le bon nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ça remonte à quand la dernière fois que vous avez été insulté pour le bon nom de Jésus? Ça remonte à quand? On a tellement de biens. On a tellement d'avoir, des beaux comptes de banque bien garnis. On a tellement peur de perdre notre réputation, de perdre tout ce qu'on a travaillé durant notre vie pour la cause de Jésus-Christ. Ce qui faisait la force des premiers chrétiens, ils avaient tout vendu ce qu'ils avaient. La seule chose qui leur restait à perdre, c'était leur vie pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. On est tellement attaché à nos briques. C'est Martin Luther qui a dit qu'après avoir converti le cœur, la chose la plus difficile à convertir, c'est le portefeuille. C'est vrai. C'est vrai. Je répète, si Dieu nous a donné Jésus alors que nous étions des pécheurs, que pourrait-il nous refuser maintenant que nous sommes ses enfants? Si vous veniez me trouver, que vous me disiez, pasteur, êtes-vous prête à me donner votre fils? Je vous dirai, si je vous donne mon fils Samuel, qu'allez-vous faire de lui? Et que vous me dites, eh bien, nous allons dire des mensonges à son sujet, nous allons le battre, on va le fouetter, on va le dévêtir, on va le clouer sur une croix. Voilà ce que nous voulons faire avec lui. Je vous dirai alors, non, 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 écoute, vous ne pouvez pas avoir mon fils. Mais supposons maintenant que pour une raison quelconque, que je vous aime suffisamment et que je vous dise, oui, vous pouvez prendre mon fils. Et que vous me dites ensuite, est-ce que nous pouvons aussi avoir son ensemble de baskets, sa paire de jeans, son vélo? Ben, je vous répondrai, est-ce que vous vous moquez de moi? Écoutez, si je suis prêt à vous donner mon fils, comment osez-vous penser que je ne serais pas prêt à vous donner son ensemble de baskets, son vélo, son pantalon? Lequel est le plus difficile à sacrifier? Verset 32, mes amis, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas, et on l'a chanté tantôt, hein? Comment ne nous donnera-t-il pas toute chose? Avec lui. Toute chose avec lui. Pas presque toute chose. Toute chose avec lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Autrement dit, si Dieu nous a donné comme premier cadeau le meilleur des cadeaux, tout le reste est livré avec Jésus. Vous allez chez IKEA, vous achetez une armoire, facile à monter. Vous ouvrez la boîte, vous avez les panneaux, vous avez les étagères. Il vous manque les vis, il vous manque tout l'attirail. Ben, vous ne seriez pas content, hein? Parce que vous avez payé pour avoir toutes les vis, hein? Pour avoir tout l'attirail pour la monter. Ça vous donne quoi d'avoir juste des panneaux? Alors, vous mettez ça le long du mur, puis vous contemplez, vous dites ça, c'est censé être une garde-robe, mais je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas tout ce qui devrait être livré avec. Frères et sœurs, si Dieu nous a donné comme premier cadeau le meilleur des cadeaux, tout le reste est livré avec Jésus. Des miracles! Des promesses! Amen! Si la croix se limite pour vous à ne recevoir que le pardon de vos péchés, vous faites vraiment pitié comme chrétien. À la croix, j'ai reçu le pardon de mes péchés parce que je suis réconcilié avec Dieu, parce que je suis né de nouveau. J'ai reçu la délivrance sur la puissance que le péché exerçait dans ma vie. Voilà pourquoi je suis capable de me donner semblable à Jésus-Christ. J'ai été délivré de la puissance que le diable exerçait dans ma vie. J'ai été délivré de la puissance que le monde exerçait dans ma vie. La mode, c'est loin derrière moi, la mode. C'est loin. Les richesses, c'est loin derrière moi. Monsieur au travail, c'est loin derrière moi. Parce que si j'ai été crucifié avec Christ, je suis mort avec lui. Quand ça devient une réalité dans nos vies, tout notre focus change. Et quand on regarde les choses qu'on fait qui sont en dehors du royaume de Dieu, on se dit, mais combien je suis idiot de perdre mon temps dans des choses qui sont appelées à périr. Mais c'est le jeu du malin. On est dans un combat spirituel, frères et sœurs. On n'aime pas dire ça aujourd'hui, combat spirituel, mais on est dans un combat spirituel. Et qu'est-ce que le diable veut faire? Nous freiner le plus qu'il est capable de faire, le plus possible pour nous empêcher de ressembler à Jésus-Christ. Et quand on ne ressemble pas à Jésus-Christ, quand on est loin de lui ressembler, il est très difficile pour nous de rendre témoignage des miracles que Jésus a fait dans nos vies. Quand on traîne des péchés, qu'on n'a pas été délivré, il est très difficile d'aller rendre témoignage aux gens et de leur dire « Accepte Jésus-Christ, il va te délivrer de ton péché. » Quand moi j'ai le même péché, je baigne dedans, je suis esclave. Et je suis esclave pas parce que Dieu ne veut pas me délivrer en Jésus-Christ, parce que je n'ai pas saisi complètement ce qui s'est passé à la croix. C'est important! Je ne suis pas là pour vous condamner ce matin, je suis là simplement pour vous parler à cœur ouvert. On a prié pour ça. Si le juste est appelé à vivre par la foi, c'est notre manque de foi qui nous empêche de voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies et de recevoir ce que Dieu en réserve pour nous. Si ce n'est pas notre manque de foi, Dieu c'est un gros menteur. C'est notre manque de foi. Alors ce matin, notre prière, c'est quoi? Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, augmente la mesure de ma foi pour que la croix soit une réalité dans ma vie, pour que Jésus-Christ soit vivant en moi et que je sois capable en prière de dire, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Voilà la troisième question que je pose au diable, qui se trouve au verset 33. Question, qui accusera les élus de Dieu? Prenez note. Personne ne peut plus nous accuser. Nous savons que le diable voudrait nous accuser parce qu'il est l'accusateur des frères. Il n'est pas écrit qu'il voudrait nous accuser, il est écrit qu'il est qualifié pour le faire. Et Satan va essayer. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, Jésus-Christ nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Bien-aimés, comment pouvons-nous être condamnés? Qui peut porter des accusations contre nous alors qu'il est écrit « Autrefois, nous étions morts spirituellement à cause de nos fautes et nous ne vivions sans Dieu. Et il nous a fait grâce et il nous a pardonné tous nos péchés en annulant le document qui nous accusait et qui subsistait contre nous. Il a détruit ce document en le clouant à la croix en disant « La dette a été payée intégralement et entièrement. » C'est compliqué, c'est long. Je vais vous donner une image. Frères et sœurs, tous les péchés qu'on a commis, prenons ça là, c'est la liste de mes péchés. Pas la Bible, c'est la liste de mes péchés. Voici Jean Cudon. Il manque encore une épaisseur dessus. Voici la liste de Jean Cudon. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens que le document qui nous accusait, c'est-à-dire le document qui contenait la liste de nos péchés, a été cloué à la croix. Il est cloué à la croix pour ceux qui acceptent que Jésus a payé la dette pour leurs péchés. Je vais vous faire encore cette petite image. Voici la liste de mes péchés. Voici Jésus sur la croix. Jésus est sans péché. Moi, je suis bourré de péchés. Je suis un pécheur.
Et quand on dit, veux-tu recevoir Jésus, veux-tu recevoir le cadeau que Dieu t'a fait en Jésus-Christ, veux-tu recevoir le pardon de tes péchés, veux-tu être déchargé de ta culpabilité, veux-tu être déchargé du lourd fardeau de tes péchés, regardez ce qui se passe à la croix. La Bible nous dit que Jésus a accepté de porter mes péchés. Qu'est-ce qui arrive à Jean Cudon? Sans péché, Jésus les porte. Il est traité en coupable à ma place. C'est ce qu'il a fait à la croix. Si vous quittez ce lieu ce matin, en apportant toujours vos péchés, si Dieu vous rappelle à lui aujourd'hui, vous allez comparaître avec vos péchés devant lui. Et si Jésus-Christ est devenu votre Seigneur et votre Sauveur, et que vous acceptiez qu'il porte pour vous vos péchés, la justice qui se trouve en Christ est échangée, elle revient sur vous. Quand vous allez comparaître devant Dieu, ce que Dieu regarde, ce n'est pas vos péchés, c'est Jésus-Christ. C'est une belle image. Et Paul, c'est ce qu'il nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13, verset 12 et 14. La dette a été payée intégralement. Dieu ne vous condamnera jamais pour les péchés qu'il vous a pardonnés. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Romains chapitre 4, versets 7 et 8. Maintenant, chers amis, rappelez-vous bien ceci, le diable n'a plus aucun moyen de nous intimider. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il ne peut plus nous amener à douter de Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. Il ne peut plus nous accuser. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Le diable ne peut pas porter d'accusation contre un enfant de Dieu. Voilà une quatrième question que j'aimerais poser au diable, et elle se trouve au verset 34. Qui les condamnera? Cher Paul, il me fait rire. Paul, il est toujours plein de questions. Regardez Romains, il est toujours plein de questions. Mais ce qui est béni, c'est qu'il nous donne aussi les réponses. Ce cher Paul, non seulement personne ne peut plus vous condamner, mais il dit, qui les condamnera? Prenez note, personne ne peut vous condamner. Vous est-il déjà arrivé, frères et sœurs, que quelqu'un vous dise d'aller en enfer? Bon, au Québec, on dit, va-t'en chez le diable. Je ne sais pas si on dit ça ici aussi, mais va-t'en donc chez le diable. Les Belges, on se ressemble beaucoup avec les Québécois. Ça, c'est possible, ça se dit ici aussi. Mais soyez, soyez patients, ça va finir par arriver. J'aimerais vous dire quelque chose, vous ne devez pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce que Paul commence ce chapitre en disant, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui vivent une relation avec Jésus-Christ. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ne sont pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens nés de nouveau, il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui l'a dit. Nous avons été sauvés. Le seul qui est qualifié pour nous condamner, c'est celui qui est mort pour nous. C'est pourquoi il peut sauver définitivement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en notre faveur, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il est le seul qui pourrait nous condamner, et il ne le fera pas, parce qu'il est écrit, « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? » Personne, parce que c'est Dieu qui les déclare non coupables, nous dit la parole. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, nous dit la parole, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour vous, frères et sœurs. Il ne prie pas contre vous. La parole nous dit, il prie en notre faveur. L'apôtre Paul, verset 33-34 de l'Épître aux Romains, chapitre 8. Il prie en ma faveur. Il prie en votre faveur. Et je suis persuadé qu'en fonction de certaines de nos conduites, il doit prier et dire, « Père, aie encore pitié de ton enfant. Aie pitié de ton enfant. Rappelle-toi ce que j'ai accompli pour lui à la croix, Père. Aie pitié de ton enfant. » Et Dieu accorde ce que Jésus lui demande. Savez-vous pourquoi je suis certain que je ne vais pas aller en enfer si quelqu'un me disait d'y aller? Parce qu'il y a quelqu'un à la droite de Dieu qui s'est laissé percer les mains et les pieds pour moi et qui prie jour après jour pour moi. Voici maintenant la cinquième question que je pose au diable et à laquelle il ne peut répondre. Verset 35. Qui peut me séparer de lui? Regardez ce qui est écrit au verset 35. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La détresse ne peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, ou encore la faim, les privations, le danger, la mort? Monsieur le diable, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Satan dit, la détresse le peut, l'angoisse le peut, la persécution le peut, la faim le peut, les privations le peut, le danger le peut, et la mort le peut. Alors je lui réponds, monsieur le diable, vous bluffez, car l'apôtre Paul lui-même a dit, j'ai la certitude que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est une réalité dans votre vie aujourd'hui, frères et sœurs? C'est important, ça aussi, c'est important que vous n'ayez aucun doute là-dessus, que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Imaginez le pire dans le rien. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'avant que le jugement arrive, la grâce de Dieu est là. Dieu exerce sa grâce. C'est extraordinaire. Même pour nous qui entendons la vérité. Même pour nous qui l'avons entendue depuis plusieurs années. Paul dit, j'ai la certitude que rien ne peut me séparer de l'amour, de son amour. Paul ne dit pas que ces choses ne nous arriveront jamais puisqu'il les a lui-même vécues. Et il est possible qu'un jour aussi nous vivions, nous, les mêmes choses que lui. Si c'était le cas, rappelez-vous que rien peut vous séparer, me séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, pensez à ces cinq questions que nous venons de voir. Rappelez-vous que nous sommes gardés par sa puissance. Rappelez-vous que rien ni personne ne peut nous intimider. Rappelez-vous que rien ni personne ne peut nous amener à douter. Rappelez-vous que rien ni personne ne peut nous accuser. Rappelez-vous que rien ni personne ne peut nous condamner et que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, voilà pourquoi de bonnes choses arrivent à ceux qui ne méritent pas. Et cela s'appelle la grâce de Dieu. Regardons maintenant la dernière de ces quatre vérités que j'aimerais rapidement, que j'aimerais que vous graviez dans votre cœur. On a été graciés, selon le plan éternel de Dieu. Deux, on a été guidés, nous sommes guidés par la providence de Dieu. Trois, nous sommes gardés par sa puissance. Quatre, nous réjouissons de sa présence. Et cinq, nous réjouissons de savoir que rien qui peut nous séparer de Dieu. J'aimerais simplement un petit peu étendre ce que je voulais dire par ça. Lisons les versets 38 et 39, car j'ai l'assurance. Voici l'apôtre Paul qui arrive à la fin de son exposé et dit, car j'ai l'assurance, la certitude que rien ne peut me séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités, ni puissance céleste, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances d'en haut, ni aucun autre être créé. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, Paul a eu sa part d'épreuves et de persécutions dans sa vie. Pourtant, il nous dit au verset 38, et imaginez, il écrit dans une de ses épîtres, que tous l'ont abandonné dans la province d'Asie. Tous! Et Paul est capable de dire, au verset 38, qu'il est persuadé, c'est-à-dire qu'il est convaincu, qu'il n'y a rien et rien qui peut le faire changer d'avis sur ce point, qu'il peut toujours compter sur l'amour, sur l'immense amour, l'amour éternel de Jésus-Christ, pour être capable d'affronter tout ce à quoi il doit faire face dans sa vie. C'est là la prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Frères et sœurs, lorsque vous vivez des moments difficiles et que vous êtes malades, soyez convaincus que Dieu est présent et qu'il n'a jamais arrêté de vous aimer. Maintenant, Paul n'est pas en train de dire ici que ce genre d'épreuve ne vous arrivera jamais, mais écoutez ce qu'il dit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas que nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la seule place dans toute la Bible où plus que vainqueurs est là, l'expression plus que vainqueurs. C'est important parce qu'elle fait référence à Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Peu importe ce que vous vivez ce matin, ce verset contient des paroles d'espoir, de paix, d'encouragement à ceux qui se sentent découragés, vaincus et accablés par la vie. Nous devrions demander au Seigneur de nous aider à accepter par la foi les promesses que Dieu nous a faites concernant la victoire que nous avons en Jésus. Nous devrions aussi demander à Dieu qu'il nous aide à vivre cette vie victorieuse au quotidien, malgré la façon dont les choses se présentent pour nous, ou malgré les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je prends la décision aujourd'hui de ne plus m'arrêter sur les circonstances, mais de garder les yeux fixés sur celui qui est en contrôle des circonstances. Je vous rappelle que dans toutes ces choses dont Paul fait référence dans les versets 33-35, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre victoire ne réside pas en nous-mêmes. Notre victoire, elle repose en Jésus-Christ seul. C'est tout ça qui change ma vie chrétienne. Donc, je n'y vais pas par mes propres forces. Je m'appuie sur les forces de Jésus. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Quand la tentation arrive, si j'essaye de l'affronter, je suis cuit comme un oiseau. Et si je me rappelle que Jésus, Seigneur Jésus, tu as été tenté dans cette tentation, Seigneur, tu as déjà remporté la victoire pour moi dans cette tentation, Seigneur, je te la donne. Le simple fait que vous allez prier ça, vous avez déjà vos deux yeux décollés sur la tentation, vous avez déjà remporté la moitié. Quoi. Mais si vous y allez par vos propres forces, c'est comme ça, hein? Je veux pas voir, hein? C'est vrai, hein? C'est la tentation, hein? Le plaisir que ça peut nous apporter, jamais des conséquences, hein? Les conséquences qui font mal, hein? Le plaisir, le mauvais plaisir, c'est un faux plaisir, hein? Notre victoire, elle repose pas en nous-mêmes, notre victoire, elle repose en Jésus-Christ. Rappelez-vous, tout ce que vous avez à vivre, Jésus y a traversé, Jésus a remporté la victoire. Et s'il vit en vous, vous êtes capable de remporter la victoire. On tombe parce qu'on l'oublie. On oublie qu'il a remporté la victoire. Et on essaye par nous-mêmes de remporter la victoire. Et là, on tombe. Mais à chaque fois qu'on tombe, on peut revenir devant le trône de Dieu et demander pardon et recommencer encore à nouveau. Nous sommes donc plus que vainqueurs, mais nous n'avons rien à faire pour assurer notre victoire. La victoire est nôtre parce que le Seigneur Jésus nous aime et qu'il a promis que son amour est la garantie que nous serons plus que vainqueurs en toutes choses. Rapidement, quelle bonne nouvelle! De savoir et savoir que rien ne peut nous séparer de son amour et qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs et que dans sa providence, Dieu veille sur ses enfants jour après jour, jour après jour. Chez les Indiens, lorsqu'un jeune garçon arrivait à l'âge adulte, il devait passer certaines épreuves pour démontrer qu'il était brave. Certaines tribus faisaient passer l'épreuve suivante au garçon. Le garçon était conduit très loin dans la forêt, où il y avait des animaux sauvages et des prédateurs. Arrivé à un endroit bien précis, on traçait un grand cercle sur le sol, puis on demandait au jeune Indien de se placer juste au centre du cercle, au milieu de ce cercle, et y demeurer pendant toute la nuit. Hein? Ce n'est pas le carré de liège, mais c'est encore plus dangereux que le carré de liège. Hein? On est en forêt. Hein? C'est une autre race d'animal qui est là. Hein? Une autre race d'animaux, pardon. Voilà. Ensuite, les gens se retiraient pour retourner au village, en laissant le jeune homme seul au milieu de ce cercle. Durant la nuit, le pauvre garçon entendait le cri des coyotes, des loups et celui des hiboux. Et peu importe les cris, les bruits qu'il entendait, il leur était défendu de sortir de ce cercle. Il devait demeurer à l'intérieur de ce cercle. Et là, on parle de garçon chez les Indiens, 12-13 ans. Hein? Le jeune homme demeurait couché sur le sol, tremblant, gémissant et pleurant jusqu'au milieu de la nuit. Ou exténué, eh bien, il s'endormait complètement épuisé. Et au petit matin, lorsque le soleil se levait, le garçon se réveillait. Et là, debout, à l'extérieur du cercle, il voyait son père qui avait veillé sur lui toute la nuit, tenant dans ses mains un arc, prêt à intervenir à tout instant pour sauver son fils. Chers amis, il y a un autre cercle qui existe, et c'est le cercle de la grâce de Dieu. C'est le cercle de l'amour de Dieu. Dieu ne vous veut aucun mal. Il veut que vous progressiez et que vous acquériez une certaine maturité spirituelle. Et lui, qui est notre bon Père céleste, se tient là à l'extérieur du cercle pour vous protéger et prêt à intervenir contre tous vos ennemis. N'êtes-vous pas heureux de savoir que de bonnes choses peuvent arriver à ceux et celles qui ne le méritent pas ce matin? Est-ce que cela réjouit votre cœur de savoir que vous avez été gracié parce que Dieu a un projet pour vous pour vous et pour moi, celui de nous rendre semblables à Jésus-Christ. N'êtes-vous pas réconforté de savoir que nous sommes guidés par sa providence et que toute chose contribue à ceux qui l'aiment? Chers amis, nous qui sommes si précieux aux yeux de Dieu, nous sommes gardés par sa puissance. Rappelez-vous, il y a 5 questions que le diable ne peut pas répondre, parce que Dieu est tout-puissant. Et nous nous réjouissons de sa présence, car il n'y a rien qui ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Je vous invite à courber la tête. On va prier en terminant. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, je suis conscient que je m'adresse à des enfants de Dieu ce matin, à ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son plan. Et je crois qu'en ce moment même, il y en a peut-être parmi vous qui se disent, « Moi, je veux dormir dans le cercle de l'amour de Dieu. » Je veux être son enfant. Je veux le recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur. Si c'est là votre grand désir ce matin, j'aimerais vous conduire dans une prière si vous voulez connaître personnellement Jésus-Christ, si ce n'est pas votre cas ce matin. Rappelez-vous d'abord jusqu'à quel point Dieu vous aime. Il a sacrifié son propre Fils par amour pour vous. Jésus n'est pas mort pour de bonnes personnes. Jésus est mort pour des gens comme vous et moi, démontrant ainsi que de bonnes choses peuvent arriver à ceux qui ne les méritent pas, lorsqu'ils mettent leur confiance en Jésus-Christ. Voulez-vous prier et dire cette prière avec moi? Mon Dieu, je reconnais que je suis un pécheur et que mon péché mérite que je sois puni. Mais j'implore ta miséricorde, Seigneur. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu as payé un prix élevé pour que mes péchés soient effacés en versant ton sang sur la croix pour moi. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts et que tu as promis de me sauver si je croyais en toi. Seigneur, je crois en toi ce matin. Seigneur, pour la première fois de ma vie, je t'ouvre mon cœur et je place ma confiance entièrement en toi. Viens habiter dans mon cœur, Seigneur Jésus. Pardonne mes péchés, purifie-moi et sauve-moi. Si c'est là votre prière ce matin, pendant que les têtes sont penchées et que les yeux sont fermés, je vous invite à faire cette prière. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait cela pour moi. Je ne recherche pas un signe, je ne recherche pas à ressentir des choses. Je m'appuie sur ta parole. Tu es maintenant mon Seigneur et mon Sauveur, mon Maître et mon Ami. Commence à faire de moi la personne que tu veux que je sois. Et donne-moi le courage de témoigner publiquement ton beau nom. Ne permets pas que j'aie honte de toi. C'est dans le beau nom de Jésus que je te prie. Amen.